T'es l'enfant seul, viens-tu des bas-fonds,
des quartiers neufs.
Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, viens-tu des bas-fonds,
des quartiers neufs.
Bref, au fond tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui des qui l'on se moqueront comme Coluche.
Comme Coluche.
Ou bosse dans le hall au groupe massif. Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses de rue couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père c'est dur, même si la mère persévère, sincère mais pas à trouver ses repères c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Peach t'assure. T'as pas saisi, enlève la mère de la Côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce, rossé par son beau-père. L'enfant seul c'est toi, eux, lui, elle. Oxmo Puccino, voix de Miel. T'es l'enfant seul,
je sais que c'est toi.
Viens-tu des bas-fonds,
des quartiers neufs.
Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul,
je sais que c'est toi.
Viens-tu des bas-fonds,
des quartiers neufs.
Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul,
je sais que c'est toi.
Viens-tu des bas-fonds,
des quartiers neufs.
Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul,
je suis sûr que c'est toi.
Viens-tu des bas-fonds,
des quartiers neufs.
Bref, au fond tous la même souffrance. Souffrance.
D'immigrer d'un père et d'une mère colombienne. J'aurais dû être sur scène un chanteur de salsa. Mais manque de veine, la vie que je mène me fit changer de voix, mis trop de haine. Croquer mes congas pour un mic. Faire du rap comme du sport qu'on claque. Chaque claque, coup dur de la vie me font au fur et à mesure un pacte d'actes contre toute attaque. Comeback, retour en arrière, retour en enfer. Autant de galères que de déceptions amères. Personne ne me fera taire. Parler mes vitales comme respirer. Si demain un flic m'agresse, sois sûr qu'il sera dans mon texte. Je vexe par mes réflexes. La rue a fait de moi ce que je suis, gars. J'aurais pu vendre du shit, faire du blé. J'ai préféré dealer des mots, des rimes. Ôter de l'anonyme, de toute faille. Tout me fait remarquer comme un graphe dans les rails du métro. Au boulot, trop d'idiots sur le troupeau. Robot d'un système de prolo. Faut sortir de là. Yo non soy bon. Aujourd'hui je suis fat. Vidéo compacte, porte de la marque. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Hip hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu même avec des hématomes. Le hip hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu même avec des hématomes. Le hip hop, mon royaume, mon home, sweet home, sweet home, sweet home. Yeah. Seul devant ma feuille, un pic comme un paquet d'années sans pile. Voilà pile 6 ans que je rappe, j'ai bossé pour ce film. CD qu'il me faut, une mémoire, un book, des pages de ma vie. J'ai pointé tôt, fait mon sou pour être large aujourd'hui. Je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire. Jette un regard amer sur certains amis d'hier. Bref, je suis vite devenu la référence, le chef. Le hip-hop, mon royaume, que j'aurais parti en fief. Fat cap bomb, des tags au premier rap, le temps passe vite. Depuis que je samplais sur ma cassette des beats. Le pot signé comme Oak mettait les toys à leur pupitre. A l'époque j'étais bien trop petit mais rêvais d'être MC. Comme eux je n'ai pas baissé mon froc, tout pour le hip-hop. A peine je commençais que des faux producteurs me léchaient les bottes. Fuck la pop et toute sa camelote. J'ai grandi parmi les menottes afin de tchatcher comme cela me botte. Garçon old school, new school, là n'est pas la question. Mais qui se fait du pognon en rappant de sa chanson. Représente 96. La fourche 18ème gare sur ma ligne 13. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu même avec des hématomes. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu même avec des hématomes. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home, sweet home. Pour l'amour du rap, pour l'amour du mic, j'ai préféré être dans les bacs que sur les bancs de la fac. Chaque projet de ma vie prend enfin forme. Persuasif comme un magnum, je laisse au roi que les m'attend. Mon album terminé, je comme le premier, on sort un autre. Sortez le vôtre, je serai là pour celui qui se vaut. Hold up, attentat, kidnapping de micro, test MC d'ici à l'assaut des scènes. Des parties radio, j'incendie tout Paris de mots. La clique à mon trou du four, je ligne sous partout. Où nous avons été, les gens se souviennent encore de nous. Sous mon disque, mix enfin du bon rap hexagonal. Une vraie instrumental et un style phénoménal. De quoi chauffer les ondes femmes. UM, CBPM, The Man Flow. Mono même en solo, mon style sort du lot. J'ai toujours été là présent, mais tu ne me voyais pas de l'ombre. Ma clique, j'ai comme le pétrole en grand nombre. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu même avec des hématomes. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu même avec des hématomes. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home, sweet home, sweet home.
supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. Me father gave me nose a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose. The biggest word you ever heard. And this is how it goes. Oh,
supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
He
travelled all around the world and everywhere he went. He used this word, no one would say that goes a clever gent.
When dukes and maharajas pass the time of day with me,
I say a
special word and they all ask me out to tea.
Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Now you can say it backwards, which is docious aliexpiistic fragicalirupus. But that's going a bit far, don't you think?
Indubitably. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. One night I said it to me girl and now me girl's your wife.
Oh, and a lovely thing she is too.
She's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Francis Gavel au micro. Chères auditrices, chers auditeurs, il est maintenant grand temps d'entendre le proustien présentateur que vous avez l'habitude de retrouver chaque quatrième samedi du mois en ouverture d'émission pour sa musicale chronique de l'album du mois, Savonné, à côté, un cabinet de toilette ravagé au bain moussant par des enfants délurés est un moindre désastre, en annonçant le titre de la chanson que nous venons d'écouter. Cette chanson, tirée du film des studios Disney, on va y revenir, Mary Poppins, s'intitule, attention, prise de respiration... Supercalifragilisticexpialidocious. Ouf, c'est fait. Alors, ceci dit, pourquoi ouvrir ce dixième rendez-vous de notre 25e saison par When You Wish Upon a Star, album hommage consacré au studio Disney et aux chansons de leur film. Tout d'abord parce que cette émission s'affichera intégralement aux couleurs du cinéma d'animation en revenant dans une attitude critique et cinéphile tout autant que généreuse et réflexive sur la 47e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy qui s'est déroulée du 11 au 17 juin dernier. Ensuite, parce que l'année 2023 marque le centenaire de la firme à la petite souris. Ainsi, pour faire le lien entre le studio hollywoodien et le festival au Savoyard, on mentionnera que fut présenté lors de la soirée d'ouverture un court-métrage intitulé « Once Upon a Studio », en français « Il était une fois un studio », dans lequel Mickey entreprend de réaliser une photo de famille réunissant tous les personnages animés de l'écurie Disney. Un travail titanesque aussi bien pour Mickey que pour les deux réalisateurs Trent Corey et Dan Abraham qui ont dû écrire et animer le film en dehors des heures de travail. Car chez Disney, le temps libre, c'est sacré. De fait, bien qu'apparaissant grincheux comme un sept-nains quand j'évoque Papy Walt, je ne peux m'empêcher de reconnaître que larmes à l'œil, sourire en commissure de lèvres, vient toujours un instant où à mon corps, à mon esprit défendant, une émotion vient saisir ma petite âme fragile et de grincheux je deviens simplet. Alors, dans l'absolu, je voulais écrire Béa, mais aucun nain de Blanche-Neige ne porte ce nom, alors simplet, ça ira. Mais revenons-en maintenant à la musique et présentons enfin ce groupe vocal britannique The King's Singer, qui s'aventure à gorge déployée dans un répertoire où les signatures prestigieuses, compositeurs et paroliers confondus, ne manquent pas, de Sammy Cahn à Alan Menken, de Ned Washington à Randy Newman. Mettant ainsi leurs pas dans ceux des Double Six, des Swingle Singers ou encore de Tech Six ou du premier disque des quatre de TSF, The King's Singer prolonge ses traditions d'un jazz vocal a cappella ou quasi, où l'art du scat, l'onomatopée, répond aux savantes combinaisons polyphoniques et où une ligne de basse chantée tout en doo-wop doo-wop propulse des beatbox labiales. En somme, un style musical qui respire le bonheur, même dans ses harmonies mineures. En somme, un art de vivre auquel on pourra certes à l'occasion reprocher d'être hors sol, où seul vibre dans l'air l'humour et la romance. Un peu, finalement, comme dans les meilleurs films de Disney. Et on écoutera, en toute fin d'émission, un deuxième titre de cet album, Can You Feel the Love Tonight, faisant ainsi le lien entre versant humoristique et pendant romantique, et traversant déjà de 1964 à 1994, de Mary Poppins au Roi Lion, 30 ans d'histoire musicale et cinématographique du studio. Voilà, mais pour ce faire, pour évoquer le cinéma d'animation et cette 47e édition donc, du Festival international du cinéma d'animation d'Annecy, qui, je l'ai déjà précisé, s'est déroulée du 11 au 17 juin dernier, je ne serai pas seul sur ce plateau, car j'ai choisi d'inviter un quatuor ou un quartet, si vous êtes plutôt musique classique ou jazz, vous choisissez, deux chroniqueurs et chroniqueuses, bien sûr, des habitués, on va dire trois habitués de l'antenne, et puis une nouvelle venue. Et je vais donc maintenant me faire un plaisir, celui de les accueillir. Alors je me tourne déjà, j'accueille Stéphane Dreyfus. Bonjour Stéphane.
Bonjour Francis.
Alors Stéphane Dreyfus, La Croix, et puis le blog Animez-vous les uns les autres. J'accueille ensuite Thomas Fouet. Tiens, ils sont dans l'ordre pratiquement. Bonjour Thomas.
Bonjour Francis.
Alors Thomas, les fiches du cinéma bien évidemment, mais surtout complice et partenaire de cette émission. Et c'est important que ce matin tu es là en tant que chroniqueur invité.
Oui, mais tu m'as gardé ma place habituelle autour de cette table ovale et je te remercie. Je suis très touché par le geste.
Mais je crois que quelqu'un d'autre a sa place habituelle. Alors, pas dans cette émission, bien sûr. C'est Marie-Pauline Mollaret. Bonjour Marie-Pauline.
Bonjour Francis, bonjour tout le monde.
Voilà, donc Marie-Pauline, bon, c'est écran noir, bien sûr, mais c'est sur cette même antenne. La seule émission 100% animation de la bande FM, on va dire, hein, c'est Bulle de Rêve. Et donc, tu as la place où tu t'assois pour Bulle de Rêve, généralement.
Eh ben oui, on ne change pas ces petites habitudes, effectivement, je dois avouer.
Et puis, la nouvelle venue qu'on est ravis d'accueillir, ma Perrine Quenesson. Bonjour Perrine.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors, bah toi, tellement de titres, j'ai fait cinématiseur, le film français, trois couleurs. Je me suis dit déjà, il y a un trio de titres là.
Très bien, c'est tout à fait ça.
Alors,
l'hydre de l'air dans trois têtes.
Toi, t'as un vrai CV.
Je n'ai pas dit ça, cher monsieur. Ne commencez pas, je vous en prie. Alors, bon. On va parler du Festival d'Annecy, je me tourne tout de suite vers la régie. Et avant que je commence à présenter un petit peu le festival et qu'ensuite on vous entende réagir sur cette édition, je crois qu'on va démarrer comme quand on est au festival, on arrive dans une séance et puis la bande-annonce démarre.
Thank you.
Voilà, alors vous avez entendu effectivement ce qu'on appelle la bande-annonce partenaire, hein, dans le langage du festival. Alors c'est une bande-annonce, on va dire, qui cette année exprimait une certaine douceur de vivre festivalière, loin des éditions précédentes qui faisaient plutôt le choix de la déflagration sonore et visuelle, qui a été réalisée par un studio parisien, qui est le studio La Cachette, un studio qui monte, hein, un studio qui s'est aussi bien illustré côté France en participant à la création d'Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie, que au niveau international avec les États-Unis et Disney Plus pour une anthologie Star Wars Vision, et le Japon et le studio Toei Animation pour une série à venir qui s'intitule Le Collège Noir. Alors, avant de donner la parole aux chroniqueurs présents, quelques mots sur cette 23e sur cette 47e édition 2023, on va y arriver. Alors, on peut dire que l'invité d'honneur était le Mexique, avec une affiche haute en couleurs, et puis avec la présence de l'infatigable VRP du cinéma d'animation qui est devenu Guillermo del Toro, qui après avoir déclaré que le cinéma d'animation n'était pas un genre pour les enfants, mais un médium à part entière, aurait émis le souhait, alors attention, je cite à l'antenne de Radio Libertaire une interview donnée sur une chaîne d'infos en continu, d'abandonner le live action pour ne plus désormais réaliser que des films d'animation. Tenez-le vous pour dit.
C'est alors, pas tout à fait ce qu'il a dit. Hein.
Ah mince, alors Stéphane.
Moi j'ai assisté à la masterclass et il a dit je vais faire encore deux films en prise de vue réelle et après je me consacrerai à l'animation en stop motion. Mais il dit ça c'est ce que j'aimerais faire et entre ce que j'aimerais faire et la réalité en général il y a un fossé. Donc voilà.
Même pour Guillermo.
Mais c'est drôle ces cinéastes comme Tarantino qui se font comme ça à l'avance des plans de carrière ou des plans de fin de carrière comme ça qui, je sais pas, ça m'interpelle un petit peu.
Je n'ai pas la réponse, j'avoue. Alors, je vais continuer quand même à parler de l'édition. On peut dire que, alors, il y a une fréquentation professionnelle qui était en hausse de 19%. Par rapport à l'année précédente et qui représente 102 pays. Alors, il y a peut-être une question qui peut commencer à se poser face à cette croissance apparemment sans limite. C'est celle d'une double saturation, d'un risque de double saturation. Alors, d'un côté, évidemment, des hébergements pour accueillir les festivaliers, mais aussi des écrans pour accueillir les œuvres présentées. Et on sait que pour tenter d'y pallier, le festival cette année a démarré une journée plus tôt, le dimanche au lieu du lundi. Mais pour donner des chiffres, puisque quand même on est dans un environnement comptable, alors des chiffres c'est maintenant, pour la compétition officielle, toutes sections confondues en ne s'en tenant qu'à la compétition officielle, il y a eu 3300 films reçus pour 468 présentés. Voilà, et puis on va à tout festival, généralement, dans tout festival, il y a un palmarès. Donc on va dire, allez, on va juste s'en tenir au cristal, qui ont été décernés. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est un cristal, on peut dire grossièrement que ça peut être un équivalent de la Palme d'Or. Hein. Alors, la liste des cristals, donc il y a eu un cristal de l'œuvre de réalité virtuelle qui a honoré Red Child de Fish Wong de Taïwan, le cristal du film de fin d'études La Notte de Martina Generali, Simone Pralotta et Francesca Sofia Rosso pour l'Italie, cristal pour une production télé, une coproduction entre la France, la Belgique et la Suisse, La Colline aux Cailloux de Marjolaine Perretin. Cristal pour un film de commande, Coming to My Arms, un clip de la musicienne November Ultra, réalisé, là, c'est comme pour le titre de Mary Poppins, je vais m'en mêler les crayons, mais c'est pas grave, par Tamerlan Bekmirzaevosso. Toutes mes excuses à lui. Et puis les deux cristals terminaux, on va dire. Alors, le cristal du court-métrage, attribué à 27, de Flora Anna Bouda, une coproduction France-Hongrie. Et on peut le signaler, donc, un doublé, puisque 27 avait déjà obtenu la Palme d'Or du court-métrage à Cannes. Donc, le cristal. Donc, maintenant, on se demande si le film est en route pour le César. Ça, je ne sais pas. Et puis, on va finir avec le cristal du long-métrage, donc Linda veut du poulet, de Sébastien Lonetbach et Chiara Malta, un film coproduction France-Italie. Alors, avant de débuter la table ronde et de revenir sur quelques films plus particuliers, vos sensations aux uns et aux autres autour de cette édition, pour ceux qui y étaient, puisque je sais que malheureusement Thomas, mais même peut-être Thomas de loin, est-ce qu'on a une sensation, comme quand on n'est pas à Cannes, on a forcément une sensation cannoise, est-ce que c'est la même chose pour Annecy ?
Je ne te cache pas que j'ai suivi ça à distance avec beaucoup d'attention toutefois, notamment grâce aux entretiens que tu publiais sur le site des Fiches du Cinéma. Donc je vous encourage, chers auditrices, chers auditeurs, à aller faire un tour sur le site des Fiches du Cinéma, non seulement pour prendre connaissance des contenus des fiches du cinéma, mais aussi pour prendre connaissance de tous ces entretiens que fait opiniâtrement, avec passion, Francis, depuis des années avec des cinéastes de l'animation.
Alors,
j'aime bien l'idée de y a une sensation cannoise ou une sensation annécienne, enfin comme un membre fantôme en fait finalement, même quand on n'y est pas, on le sent quand même, c'est un peu ça. Le festival d'Annecy.
Je sais pas, c'est justement une question que je posais. On le sait que c'est évidemment ça pour le
moi,
festival de Cannes.
Moi, je n'y étais qu'une seule fois. Moi, j'avais découvert tardivement non pas Annecy mais le festival d'Annecy l'an passé. Donc c'est peut-être insuffisant pour nourrir, pour faire croître un membre fantôme, peut-être.
Alors, vos regards sur cette édition du festival, aux uns et aux autres, et sur le palmarès, bien évidemment. Marie-Pauline, allez, nous t'écoutons.
Eh bien, que dire, moi c'est drôle parce que j'étais à Annecy et en rentrant, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, ça avait l'air d'être une super édition, on a eu des super échos, on en a beaucoup parlé. » Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il en est, puisqu'en étant sur place, on ne se rend pas trop compte. Mais en tout cas, de l'extérieur, c'est amusant, cette édition mexicaine apparemment a beaucoup fait parler d'elle. Et de l'intérieur, eh bien, que dire, tu l'as souligné, Francis, je pense que le festival s'approche d'un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas nouveau, on l'avait déjà vécu en 2019 et là, ça n'a fait que confirmer que bah, c'est un peu comme Cannes, la ville elle est trop petite, il n'y a pas assez d'infrastructures, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir, voilà, on pousse les meubles, on multiplie les séances, mais au bout d'un moment, c'est un vrai problème. Je crois qu'il y a beaucoup de professionnels qui étaient frustrés cette année, parce qu'ils pouvaient, enfin des professionnels, ils ont d'autres, mais qui ne pouvaient pas voir les films, que les files d'attente de dernière minute étaient extraordinairement longues. Voilà, je sais pas, moi j'ai présenté une séance où les gens faisaient la queue depuis 6h du matin pour une séance à 11h30. Voilà, donc bon, après c'était un truc un peu événementiel, mais quand même, je trouve que c'est assez dingue de voir ce genre de choses. Je suis pas sûre qu'on voit ça très souvent à Cannes, par exemple, pour continuer la comparaison. Enfin voilà, moi je m'interroge beaucoup là-dessus, mais aussi parce que je suis un peu de l'intérieur et je me demande ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Est-ce qu'il faut se dire qu'on fait on invite moins de films, moins de séances? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce qu'il faut rajouter des jours? Voilà, je ne sais pas. J'ai pas de solution, mais en tout cas, je ne doute pas que l'organisation du festival se pose les mêmes questions et essaye de trouver des solutions. À une occasion, Michael Marin, qui est donc le président de Citia, a fait un discours où il a quand même réaffirmer que cette idée de croissance, c'était pas du tout un truc qu'eux recherchaient. En fait, ils sont pas du tout dans une recherche d'avoir des chiffres de plus en plus hauts, et que certes, ils peuvent pas avoir l'air triste en disant on a fait mieux que l'année dernière, mais qu'en même temps, c'est pas du tout. Ils sont pas dans une recherche de croissance exponentielle, ce qu'on peut comprendre. Et en même temps, limiter les accréditations, c'est toujours un peu dommage. À qui on limite? Est-ce qu'on dit ah bah, les étudiants, ils servent à rien, donc on les laisse à la maison? Enfin voilà, c'est un vrai problème. Parce qu'évidemment, les gens qu'on va limiter, ce sera certainement pas les gens du marché. Ça paraît assez peu probable. Donc à qui on empêche les accès. Voilà, enfin, c'est pas une réflexion que je vous livre en vrac sur moi, comment j'ai vécu le festival.
Alors Perrine, Stéphane,
ouais, je suis assez d'accord sur cette sensation presque de trop plein, enfin, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de monde tout le temps. C'est vrai que même Cannes paraît petit, enfin paraît moins serré que Annecy. Il y a vraiment, je pense que la solution, c'est d'arrêter de dire aux gens que c'est bien. On va arrêter de dire aux gens que c'est sympa.
On arrête l'émission alors.
On arrête de dire aux gens que c'est sympa, comme ça venez pas. Et comme ça on aura un peu. Mais je vois que ça bâtit beaucoup autour. Cette année il y avait un endroit qui s'appelle le Pélican, qui est un hôtel où il y a beaucoup d'interviews cette année, des choses comme ça. Et autour de ça il y avait énormément de constructions, de choses qui étaient en train de se bâtir. Donc je me dis qu'ils sont aussi dans une volonté, la ville est aussi dans une volonté d'expansion et d'accueillir. Peut-être aussi au niveau du tourisme, hein, parce que ça reste quand même un très joli endroit. Mais voilà, je me dis qu'il y a peut-être une volonté d'aller plus loin. Mais c'est vrai que, par exemple, essayer de réserver une chambre, j'ai essayé 3 semaines avant le festival pour essayer de me loger quelque part. Bon, des gens ont compris le filon, quoi. On était à 500€ la chambre, la nuit. Donc j'étais genre, ah oui, bon, les gens ont bien compris le filon. Ça y est, on est vraiment officiellement à Cannes. Mais voilà, il y a une sensation de beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, ça reste une. Je suis d'accord sur le côté. J'ai beaucoup entendu parler ici, finalement, du festival. Mais quand on est dedans, on a un peu la tête dans le guidon. Mais c'est vrai que c'était une édition, en tout cas, moi, j'ai une édition très. Très chargé, on a beaucoup, beaucoup marché comme d'habitude, et puis vu beaucoup de choses. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'est une édition en tout cas très pleine et pleine dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de films intéressants, beaucoup de sessions de work in progress aussi très intéressants et qui donnent envie d'être là les années suivantes pour voir ce qui va se faire. Donc non, moi je trouve que c'est une édition en tout cas très Et c'est la première édition post-Covid, j'ai envie de dire, où vraiment on a l'impression qu'il y avait tout le monde qui était de retour, quoi, encore plus. Donc il y avait cette sensation de, voilà, encore plus de, hey, on est là, on est content. C'est un peu ce que j'ai senti.
Stéphane.
Oui, alors effectivement, trop plein, donc du coup des petits couacs d'organisation, des retards de séance. Bon, et je pense aussi que la ville était un peu secouée aussi par l'attaque qui a eu lieu quand même 3 jours avant le début du festival et qui j'ai l'impression a créé une ambiance un peu bizarre. Enfin, moi, j'étais pas très à l'aise, très sincèrement. Et j'ai senti que les gens étaient un peu, les Annéciens étaient un peu peut-être plus agacés par ce monde auquel ils sont habitués quand même l'été. C'est une ville qui est habituée au tourisme de masse pendant la saison estivale. Donc moi j'ai ressenti ça aussi en lien avec cette actualité quand même qui a beaucoup secoué les Annéciens comme l'équipe organisatrice qui était pas très bien quand même au début de cette édition. Après sur la tonalité de l'édition, j'ai pas trouvé que c'était une édition incroyable moi personnellement. À tout point de vue, enfin même si effectivement il y a toujours des belles choses, toujours des beaux des belles sessions de work in progress en bon français, de travail en cours, de films intéressants, mais je trouve que prend de plus en plus de place ces séances dites événements qui deviennent de plus en plus des autopromotions de plateformes et studios et qui je trouve font pas beaucoup d'efforts pour au-delà de montrer quelques images qui bougent de leur projet pour vraiment avoir une discussion sur le fond. Alors moi j'ai en assisté à plusieurs par obligation professionnelle très sincèrement mais franchement on sort de là un peu agacé quoi. Alors Benjamin Reiner s'en est bien sorti parce qu'il a réussi lors de la présentation de son film pour Illumination, le studio qui a fait Les Mignons et Super Mario Bros, avec le producteur, son producteur, aborder des questions de fond sur l'animation, sur la mise en scène, etc. Mais les autres étaient quand même, notamment Netflix, qui a fait une présentation vraiment qui était de l'ordre de la publicité. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que l'Annecy se méfie aussi de ça. Enfin, je pense qu'ils s'en méfient d'ailleurs. À mon avis, il y aura des ajustements dans les années qui viennent.
Alors, pour revenir sur ce que tu as dit, de petites précisions peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui seraient pas au courant, on peut rappeler que donc le jeudi avant l'ouverture du festival, un homme a agressé au couteau des enfants dans une aire de jeu qui est à 2 pas du centre névralgique du festival et de la ville, les blessant très très grièvement. Alors heureusement depuis ils sont hors d'affaire, mais effectivement c'est quelque chose qui par rapport à la première journée de festival, a créé de la volonté des organisateurs du festival, mais aussi de la ville, à la fois de continuer en disant, comme on dit souvent dans ces cas-là, que la vie était plus forte, mais aussi en étant dans le recueillement, avec le matin un hommage sur la place où les choses étaient arrivées, et le soir en annulant les projections en plein air. Voilà. Alors après, pour revenir sur ces séances événements, c'était pas du tout prévu, mais c'est assez intéressant parce que est-ce que les séances événements deviennent pas, tu mentionnais cette présence américaine dans les séances événements, mais il y a aussi des films français qui sont en séance événements et parfois des choses très diverses. On a une séance événement consacrée généralement, c'était déjà arrivé une première fois, au moyen métrage. Là, il y avait le film de Denis Do, La forêt de Mademoiselle Tang. Et puis, on a eu effectivement le dernier film de Félix Chollier et Gagnol, Nina et le secret du hérisson, j'allais dire du citron, n'importe quoi.
C'est un autre film.
C'est un autre film, c'est leur prochain, même si celui-là est leur ultime.
C'est la version métavers.
et donc, est-ce qu'il n'y a pas une sensation que finalement, de toute façon, on ne peut plus aussi accueillir en compétition plus de films au bout d'un moment, même en ayant créé une nouvelle compétition qui s'appelle Contre-champ. Ou est-ce qu'il y a, comme on pourrait le voir à Cannes, justement, des réalisateurs qui disent « Mais nous, on ne veut pas être en section compétitive. »
Alors là, moi, j'ai pas de réponse pour savoir pourquoi certains films sont plutôt à un endroit qu'à un autre. Et c'est toujours le jeu très intéressant de comment on bâtit une sélection et une programmation. C'est toujours très très délicat quand on est soi-même sélectionneur d'aller critiquer ce que font les autres. Mais oui, on peut se poser certaines questions sur ces séances événements. Après, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses entre certaines séances qui sont très clairement, il faut que chaque gros studio ait sa place parce que sinon ils vont pas être contents ou surtout ça va pas être bon pour nous et ils vont pas revenir plus tard avec un grand film qui est vraiment contestable. Et puis après, ces séances événements sur certains films, moi je trouve que des fois c'est vraiment plus intéressant pour les films d'être présentés comme ça que d'être dans une compétition. Il y a certains films cette année qui étaient dans une des deux compétitions long métrage qui, à mon avis, n'y avaient pas leur place et ont été fragilisés d'être mis en compétition. Ils auraient été beaucoup mieux d'être dans une séance spéciale voilà, où il n'y a pas d'enjeu et juste ils sont montrés, tout le monde est content d'être là et il n'y a pas ce truc de comparaison avec les autres films. Quand on est en compétition, on est en comparaison avec d'autres films. Et il y a vraiment des films qui, à mon avis, en ont souffert. Donc je rejetterai pas toutes ces séances événements. Je pense qu'elles ont, elles ont leur sens. On peut s'interroger encore une fois. Tu parlais évidemment de Nina, le secret du hérisson. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que je ne sais pas s'il est là parce que c'est une volonté des auteurs, parce que je ne sais pas quoi. Il y avait déjà trop de films français en compétition. Mais c'est vrai que le film n'aurait pas, pour le coup, pas du tout déparé et ça l'aurait pas du tout desservi d'être dans une compétition. Mais là, encore une fois, on n'est pas dans les tambouilles internes de programmation. Vous savez tous à quel point c'est compliqué.
Non, mais je vais rejoindre ce que tu disais, Stéphane, parce qu'effectivement, moi, les séances événements, je trouve ça plutôt en fait assez bien. Il y a quelque chose d'un peu festif aussi, et on sent, notamment avec la présence des étudiants, que tout à l'heure, ils servent à rien, mais en fait, non, si, ils servent, ah, et sûr. Notamment à mettre l'ambiance.
Ils beaucoup.
Non, ouais. C'était pour revenir à ce que tu disais, Marie-Pauline, mais non, mais voilà, en plus, ils mettent l'ambiance, et ça, c'est assez chouette. Mais, et en fait, ça crée quelque chose d'un petit peu festif et célébré. Les séances spéciales, je trouve ça assez chouette. Par contre, je te rejoins sur les présentations parfois de certains studios, en fait, moi, ce qui commence à m'agacer avec ces présentations, c'est le discours. C'est-à-dire qu'on est sur un ripollinage de discours à vouloir mettre du sens dans tout et un discours au-delà de l'animation tout le temps. Il y a vraiment à chaque fois chaque bout d'image animée, ça devient un morceau de bravoure pour telle ou telle cause. Et en fait, finalement, on enlève un peu le travail finalement de l'animation, ce qui en fait ce que je trouve est plus intéressant quand on nous présente finalement comment le film est fait, la manière dont on l'a travaillé, plutôt que de vouloir absolument faire rentrer ça dans des cases de un peu marketing en fait tout le temps. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un côté sur ces. Je suis complètement d'accord que les grands studios ont besoin d'être là parce que en effet, ça va créer des trucs, des séances événements. Il y aura des grands films, il y aura des choses, ça va être important. Et c'est une manière de faire résonner le festival encore plus et en dehors d'Annecy. Mais je trouve que ces séances où ils présentent, comme Netflix ou autre, présentent, il y a un côté un petit peu. Le discours prend le pas sur l'art, en fait, sur l'animation elle-même. Et ça. Personnellement, c'est-à-dire qu'au bout de la 50e fois, ils me disent qu'ils sont tous gentils, que c'était super et que on est à fond sur telle ou telle cause et que je sais pas quoi et que en fait le chemin du film, c'est un peu mon chemin personnel. Et que, et que ça lui rappelle sa grand-tante, je sais pas trop quoi. Je suis genre, non, mais en fait, le prochain qui dit ça, j'en retourne une, en fait. C'est juste que ça devient un peu, non, ça devient un peu agaçant. Ça devient un petit peu, surtout, je pourrais écrire à l'avance tout ce qu'ils vont dire, en fait. Et j'ai presque une sorte de fiche en tant que journaliste, donc pour mon travail, comme tu disais. Je pourrais presque à l'avance écrire le truc et remplir les trous, juste avec quels mots ils ont employé à la place d'un autre, en fait. C'est juste ça. Et ça, je trouve que c'est la partie un peu agaçante sur les gros studios. Voilà.
Oui, oui, non, mais moi je souscris totalement. Les séances événements, dès lors qu'on présente un long métrage ou un film fini, c'est tout à fait. Ça a tout à fait sa place à Annecy. Quand c'est des séances d'autopromotion de Netflix ou autre, Disney, c'est pas beaucoup mieux, qui a quand même toute une journée pratiquement qui lui est consacrée.
Oui, le vendredi, on a compris, c'est la journée Disney.
C'était Pixar et Disney. Bon, alors c'est parce qu'ils en avaient deux à présenter, mais voilà, c'est quand même un peu too much.
Alors, une petite question que je vais vous poser, parce que vous ne m'avez rien dit les uns et les autres sur le palmarès. Ah, comment ça se fait? Comme ça, des réactions spontanées. Ou... Moi, j'ai parlé avec des cristals, mais peut-être que vous pouvez attirer l'attention sur d'autres choses. Ou
Bon, alors moi, j'ai pas eu le temps de voir toute la compétition court-métrage.
Bon, je trouve ça toujours un peu dommage qu'on donne que le même film rafle tous les prix et après il a la Palme d'Or. On aurait pu se dire que 27, enfin qu'un autre film aurait pu trouver une place dans le cœur du jury, mais bon, je n'étais pas dans le jury, donc c'est toujours difficile de voilà. C'est un film, mais je sais pas si on en parle, mais c'est un film intéressant, techniquement magnifique et artistiquement magnifique. Après, moi, c'est un peu à l'image de cette édition, c'est-à-dire que je trouve sur le fond, ça manque un peu de substance, voilà. Je reste un peu sur ma faim. Pour le cristal du long métrage, c'est un film super, c'est une proposition géniale pour un public familial qui a pas toujours, qui a rarement ce genre de propositions en salle. Aussi coloré, original, fantaisiste, un peu un art sur les bords, voilà. Et donc, je trouve ça super. Après, j'ai quelques réserves sur le scénario
que tu vas pouvoir exprimer voilà. Quand on parlera du film.
Exactement.
Parce que sinon, tu grilles déjà toutes tes cartouches, ce serait dommage. Non, mais voilà, réagir effectivement sur les films primés ou peut-être aussi sur, comme tu l'as fait là, sur ces questionnements que pose. Est-ce qu'un jury
doit... Le palmarès était très cannois. Voilà, c'est quand même beaucoup de films qui étaient à Cannes. L'Ina veut du poulet était à l'acide.
27.
Rob Dreams, qui a eu le cristal, le Grand Prix Contre-champ, mérité à mon sens, mais qui était en séance spéciale, en sélection officielle à Cannes. 27 a eu la Palme d'Or. Voilà, il y en a eu pas mal de films qui se retrouvent au palmarès étaient cannois auparavant.
Ah, puis c'était la fête de Miu. Aussi,
alors Miu, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'on n'est pas forcément dans Bulle de Rêve, le public n'est pas forcément le même. Miu, on peut préciser que c'est une société de production française et qui effectivement a coproduit, il ne faut pas produit tout seul, aussi bien Linda veut du poulet que 27.
Oui.
Je te redonne la parole.
Non, voilà, mais on en reparlera après de Linda veut du poulet, mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que c'était un peu la fête à Miu. La fête de Miu, je ne sais plus si on peut dire un ou deux. Mais, et en soi, j'en suis plutôt très contente parce que je trouve que c'est un studio qui est très intéressant et qui avait des propositions vraiment super. Donc voilà, moi j'étais un peu contente de ça, mais je te rejoins sur le côté très cannois. Donc pas une surprise de fou sur ce palmarès, mais pour revenir sur Robot Dreams, que je n'avais pas pu voir à Cannes et que j'ai pu voir à Annecy dans une séance présentée par Marie-Pauline Mollaret, je tiens à le dire, avec un réalisateur de Pablo Berger, très en forme. C'était une très très bonne surprise. Enfin, c'est quand même un très beau film, très étonnant, un film sur l'amitié, à ce qui paraît, parce que pour moi ça parle pas d'amitié du tout, entre un robot et un chien. Oui, dit comme ça. Mais un robot et un chien, moi je pense qu'ils sont amoureux, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Mais je trouve que c'est un très très beau film et c'est pour le coup un très beau prix. Et j'étais même étonnée de le voir qu'il n'était pas en. J'ai pas très bien compris. On va pas revenir sur les pourquoi du comment des programmations, mais pourquoi le film n'était pas en compétition officielle et plutôt en contre-champ. Mais en tout cas, un film entièrement muet, très surprenant, très beau. Et qui m'a fait verser ma petite larme à la fin, donc je suis très contente qu'il soit récompensé. Et super séance présentée par Marie-Pauline.
Oui, parce qu'alors on va préciser pour nos auditeurs que Marie-Pauline, effectivement, travaille aussi pour le festival, entre autres en présentant des séances, mais surtout en étant membre à part entière du comité de sélection des films de fin d'études.
Perrine aussi.
Ah non, moi je ne fais pas partie de comité d'élection, j'ai juste animé des WIP, les Work in Progress, les Travail en cours et les Making of. Mais je suis une nouvelle venue par rapport à Marie-Pauline.
Alors Marie-Pauline, ton point de vue, ton regard.
Tu veux vraiment qu'on parle de palmarès?
Ça m'étonnerait. On le fait quand il s'agit de Cannes, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose pour Annecy.
Ben, ça m'est toujours très difficile de parler des palmarès sur les sections où je sélectionne, parce qu'évidemment, en tant que sélectionneuse, j'ai un regard et une certaine exigence sur ce que je présente. J'ai un certain espoir d'apporter des films qui peut-être vont surprendre, déranger et bouleverser. Et je dois même reconnaître que je suis presque systématiquement déçue par ce qui ressort en fait des sélections. Donc après, je ne vais pas dire que les films sont mauvais. A priori, je les ai sélectionnés, donc c'est que je ne les détestais pas complètement. Mais je trouve que, et ça, ça se retrouve à mon avis dans tous les palmarès, en tout cas dans tous les films que j'avais pu voir, une forme de conservatisme, une forme de, ouais, de tiédeur, de classicisme peut-être plus dans ce qui est récompensé. C'est-à-dire qu'on va vers des films, typiquement si je veux parler du film qui a gagné en film étudiant, La Notée, c'est un film qui est très joli mais qui aurait pu être fait il y a 30 ans exactement de la même manière, c'est-à-dire que ça n'apporte rien de nouveau, c'est très sympathique, c'est... je ne sais plus, là, son nom m'échappe, mais un personnage de la Commedia dell'arte qui va dans une sorte de carnaval. Et voilà, tout est très coloré, très joyeux sur un morceau de musique très célèbre. C'est bien, je veux dire, c'est très bien. C'est fait par une petite école en Italie. Donc, nous, en tant que sélectionneurs, on a vachement ça à cœur aussi, de mettre en avant ce genre de film. Après, en le sélectionnant, on ne se dit jamais qu'on a découvert la pépite de l'année et que, waouh, le film va... Voilà, que les réalisateurs sont amenés à un grand avenir ou je ne sais quoi. Après, c'est très bien que ce film gagne là, c'est super pour eux. Et je vais, enfin, voilà, je ne veux pas avoir l'air d'être amer ou je ne sais pas quoi, mais je sais que quand on fait ce travail de sélection, encore une fois, on a aussi l'espoir de mettre en avant des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qui tranchent, qui sont nouvelles, que peut-être on n'avait jamais vues, et que malheureusement, ce genre de film, on n'a pas de retour dessus, donc on ne sait pas, ils ne sont jamais mis en lumière, et on a un tout petit peu l'impression, finalement, que ce qu'on fait n'est pas en adéquation avec ce qui est attendu. Voilà.
Mais à Annecy comme ailleurs, c'est d'une part lié, je pense, à la dynamique interne propre au jury. Hein. Il y en a un qui veut repeindre la cage d'escalier en rouge, l'autre en bleu, ouais, l'autre en vert, à la fin, on repeint en gris, parce que... le syndic a décidé que bon, ça allait bien deux minutes les conneries, quoi. Et puis après, ça peut tenir aussi à la composition des jurys, à la façon dont les jurys sont composés. Donc ça peut relever cette responsabilité.
C'est un peu
aussi
la loterie.
Comment on compose les jurys, qui on invite à juger des films. Mais je sais pas. Mais je m'avancerai pas là-dessus parce que je ne saurais pointer une quelconque responsabilité quant à quoi que ce soit. Voilà.
Non mais c'est évident que la composition des jurys joue. Tu disais tout à l'heure, Stéphane, je me suis fait la même réflexion quand même. Donner un cristal à un film qui vient d'avoir la Palme d'Or, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, puisque tout le monde va retenir qu'il a la Palme d'Or et qu'il n'a pas le cristal, on va peut-être l'oublier. Et moi on m'a répondu, mais est-ce qu'ils savent seulement que le film a eu la Palme d'Or? Parce que voilà, qui est dans ce jury? Est-ce qu'ils se tiennent vraiment au courant? Est-ce qu'ils savent ce à quoi ils ont affaire?
Si c'est le cas, s'ils ne savaient vraiment pas que le film avait eu la Palme d'Or, là, il y a un vrai problème de composition du jury.
Et je ne m'engagerai pas plus avant sur ce terrain.
Ce sont les propos de Thomas.
Je ne travaille pas pour le Festival d'Annecy, je peux donc tout à fait me le permettre.
Mais peut-être qu'ils le savaient complètement, qu'ils l'ont fait en connaissance de cause. Mais en fait, la question se pose. C'est ça qui est assez intéressant.
Bon, bah, en tout cas, moi, je vous remercie pour ces problématiques que vous posez. Et on va commencer à rentrer dans notre table ronde critique. On va évoquer 5 films. Voilà, un choix tout à fait subjectif de ma part, mais que j'espère divers et varié, même si on peut dire aussi, mais ça pourra peut-être être une source de questions, que c'est un focus finalement sur la production française. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un premier film pour vous laisser vous reposer un petit peu. On va passer un peu de musique et on va passer donc la musique d'un musicien qui a obtenu le prix de la meilleure musique originale pour un long métrage. Je veux donc parler d'Éric Truffaz, pardon, on va y arriver, connu comme trompettiste et également compositeur, et qui donc a composé la musique du film de Sepide Farsi, La Sirène, qui était en compétition officielle. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Toujours en compagnie de nos chroniqueurs préférés. Je reprends mes petites notes parce que j'en ai partout. Donc, nous sommes avec Stéphane Dreyfus, Thomas Fouet, Marie-Pauline Mollaret, Perrine Quenesson. Alors, on vient d'écouter donc un extrait de la BO de La Sirène de Sépide Farcy. Alors, La Sirène, en plus, là, le premier film dont on parle, c'est un film qui va être en salle la semaine prochaine, le 28 juin. Donc, c'était important aussi d'attirer l'attention sur ce film. Alors, je vous livre le synopsis, comme ça, les auditeurs sauront de quoi il est question. 1980, dans le sud de l'Iran. Les habitants d'Abadan résistent au siège des Irakiens. Il y a là Omid, 14 ans, qui a décidé de rester sur place chez son grand-père en attendant le retour de son grand frère du front. Mais comment résister en temps de guerre sans prendre les armes ? Omid découvre alors un bateau abandonné dans le port d'Abadan. Aurait-il enfin trouvé le moyen de sauver ceux qu'il aime ? Quelques mots sur la cinéaste avant de vous laisser la parole. Donc Sépide Farcy est une cinéaste engagée qui est née à Téhéran et qui a été emprisonnée à l'âge de 16 ans pour avoir caché un dissident du régime. Elle décide en 1984 de s'exiler à Paris et elle n'a de cesse depuis d'accompagner à travers documentaires et fictions les contestations populaires du pays. Et après Red Rose, tournée en 2014 en Grèce où elle évoque l'intimité contestataire et passionnée d'un couple iranien, la réalisatrice fait ici ses premiers pas du côté de l'animation, alors en compagnie de Saven Nadjar à la direction artistique, et s'attache au quotidien de survie des habitants d'une ville assiégée qu'elle évoque comme une leçon de résistance et l'histoire d'une résilience à l'iranienne, d'une cité quasiment détruite et vidée de sa population pendant la guerre et qui compte de nouveau plus de 200 000 habitants aujourd'hui. Je crois, Marie-Pauline, que tu avais découvert le film bien avant Annecy et que c'est un film qui te tient à cœur.
Mais oui, tout à fait. C'est un film que j'ai vu à Berlin parce que le film était sélectionné dans deux compétitions différentes à Berlin. Il a fait l'ouverture, là tout à coup le nom de la section m'échappe, mais toujours est-il qu'il avait quand même fait l'ouverture du panorama à Berlin, ce qui était quand même plutôt chouette. Je rappellerai au passage que Berlin est quand même super ouvert sur le cinéma d'animation, que ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Et par ailleurs, c'est un film qu'on attendait depuis longtemps, parce que c'est un film dont on entend parler depuis des années. Donc c'est un projet qu'on a suivi. Et moi, j'ai pas été déçue. Voilà. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'échos assez négatifs et que l'accueil a été un peu froid à Cannes. À Annecy. Mais voilà. Moi, j'ai pas été déçue par le film. Je trouve que c'est un conte. Très sensible sur un truc qui personnellement me tient beaucoup à cœur, c'est un peu une marotte, c'est sur comment on vit en temps de guerre. Parce que les films de guerre, personnellement, ça m'ennuie, ça m'intéresse pas de voir des gens se tirer dessus et se courir après, se cacher dans la boue. Enfin voilà, c'est un peu l'image que j'en ai, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voir comment, quand c'est la guerre, on passe pas son temps à se lamenter et à pleurer dans son coin en disant c'est la guerre, c'est horrible, mais il faut bien continuer à vivre. Et il faut continuer à faire tout ce qu'on fait en temps normal, finalement, et notamment à aimer. Et à essayer de prendre soin des gens qu'on aime, etc. Et voilà, moi je trouvais ça assez joli, ça peut paraître un peu naïf, mais le dispositif du film qui, comme tu le disais dans le résumé, voilà, ce personnage qui va un peu servir de fil conducteur à travers toute une galerie de personnages qui va ravitailler, ça nous permet déjà de nous déplacer dans la ville. Je trouve qu'il y a un très beau travail sur la ville, sur ce qui est fait dans la ville, les différents endroits où il nous emmène. Et puis après, toute une galerie de personnages, plus ou moins cocasses, plus ou moins amusants. Alors ça, c'est j'ai envie de dire, c'est un peu les exigences du scénario. Il ne faut pas qu'ils soient tous identiques, il ne faut pas qu'ils soient tous un peu ennuyeux, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez, assez joli, ça m'a vraiment emporté. Le côté conte est complètement assumé avec cette histoire de bateau et d'évasion, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans un truc réaliste. Et visuellement, on n'est pas non plus du tout dans le le naturalisme. Pardon. Et voilà, on retrouve très, très clairement le trait de Saven Nadjar, qui est donc le directeur artistique. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce travail sur les aplats de couleurs. Très, très simple, très stylisé. Il y a eu un énorme travail de recherche sur tout ce qui est décor, sur tout ce qui est ville. Et en même temps, il y a un côté très stylisé. Qui permet de rester dans cette idée de conte. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, on sent qu'il y a une réalisatrice qui a de la bouteille, si j'ose dire. En fait, on sent qu'il y a vraiment de la mise en scène. Il y a des plans qui sont très très beaux. Je pense tout au début, où ils sont en train de jouer au foot, et puis on voit vraiment. Genre, j'ai des souvenirs qui commencent à être un peu effacés, mais on a avec le visage sur le visage du personnage, on comprend qu'il se passe un truc. Il y a ce plan où tout à coup on voit les explosions. C'est le début des bombardements. Voilà, il y a des plans comme ça, le plan à la morgue, sur les corps. Il y a un truc très très frontal, c'est un conte, mais un truc très très frontal aussi sur ce que c'est de vivre en temps de guerre. C'est pas juste, bon, quand même, c'est un petit peu rigolo, on va ravitailler, on rencontre plein de gens. Il y a quand même tout le temps le risque de se faire bombarder. Ça, c'est un truc que le film ne met pas du tout de côté, ce qui peut parfois être le cas dans ce genre de film où finalement c'est la guerre, mais bon, ça va. Et là, c'est quand même assez dur en même temps.
Merci Marie-Pauline. D'autres réactions autour de cette table ?
Moi, je suis moins emballé par le film que Marie-Pauline, qui le défend très bien. Moi, j'ai pas perçu la dimension allégorique du conte. Je trouve que, au contraire, le film, en dépit de son aspect très stylisé, que je trouve très réussi. Moi aussi, j'aime beaucoup le travail de Zaven Najjar. Je trouve que je trouve que c'est plutôt ça cherche. Enfin, j'ai eu le sentiment que ça cherchait plutôt à être naturaliste, justement, à restituer ces errements de populations civiles qui sont prises au piège et qui savent pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut se cacher? Est-ce qu'il faut affronter? Et d'ailleurs, le personnage principal, ce jeune adolescent Omid, qui a 15 ans, quelque chose comme ça, se passe un peu par toutes les couleurs des réactions qu'on peut avoir, enfin que les populations civiles peuvent avoir dans ces cas-là. Il y a un moment, il s'engage et puis il se rend compte que c'est pas pour lui. Enfin, voilà, je vais pas dévoiler tout le film, mais il y a ces dimensions qui fait que on a l'impression d'ailleurs que le scénario est un peu erratique. Je vais beaucoup me répéter aujourd'hui parce que je trouve que c'est un peu ce qui pêche dans les films d'Annecy cette année. Mais je pense qu'il y a une volonté aussi de montrer que c'est compliqué, enfin on sait pas trop quoi faire dans ces cas-là quand la guerre éclate de façon aussi soudaine et brutale. Voilà, c'est un film que je trouve intéressant de ce point de vue-là, même si je trouve que du coup on est nous-mêmes un peu paumés face aux motivations et aux enjeux des personnages. Et par ailleurs, je trouve que l'animation, qui a sans doute pâti d'une économie un peu limitée, est un peu raide, quoi. Voilà.
Périne.
Oh, je suis un peu plus enthousiaste quand même. Alors, je vais tout de suite évincer la partie où, enfin, ce qui me déplaît, c'est un grand mot. Ce que j'ai moins aimé dans le film, je trouve que le film met un peu trop de temps à démarrer. C'est-à-dire qu'on a presque 40 minutes de film avant d'arriver justement sur la galerie de personnages réellement, d'arriver plus dans même l'aspect un peu plus conte, etc. Je trouve que ce début, ce démarrage un peu au diesel, j'avais un petit peu du mal à accrocher là-dessus. Mais c'est à peu près la seule chose que j'ai reproché au film, parce que sorti de ça, je trouve que c'est un film qui est visuellement très beau. Justement, ce que j'aime bien dans les aplats de couleurs et ce trait-là, c'est aussi justement la limitation des couleurs. C'est un film qui a une gamme de couleurs très limitée, en vrai, majoritairement marron et bleu, particulièrement, et qui, par ce biais-là, cette limitation des couleurs, on a la sensation d'enfermement aussi qui fonctionne assez bien sur cette idée de siège, en fait. On est enfermé dans la ville d'Abadan, on est enfermé avec eux, et je trouve que voilà, cette recherche chromatique, du moins, est très efficace pour le film, et qui a contribué pour moi à la réussite du film. Je trouve que c'est un film, ce qui est intéressant, c'est que c'est un premier long métrage d'animation pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Ça a mis quand même 8 ans à se faire, je crois. Ça a été assez long et laborieux. Je pense qu'ils ont découvert aussi que c'était long, l'animation, et que c'était pas si simple non plus à financer. Mais ce que justement je trouve qu'en fait c'est peut-être parce que c'est un premier film que la réalisatrice est plus habituée au documentaire, plus habituée à en tout cas à la prise de vue réelle. Il y a peut-être une, je trouve une, en tout cas une spontanéité, il y a quelque chose dans le film. Le film n'est pas très spontané dans le sens où il y a quelque chose d'un petit peu, l'animation est assez lente et en même temps très efficace. Il y a une scène de bombardement à un moment donné dans la ville qui est assez stupéfiante, je trouve. Mais je trouve que je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu spontané dans la manière d'approcher l'animation dans le film qui pour moi fonctionne très bien et très politique. C'est un film qui est vraiment très 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 politique. Rien que le fait de cette galerie de personnages, de montrer un certain Iran, pas un Iran qui regarde tout dans le même sens, mais un Iran très diversifié. Je trouve qu'en soi, c'est très intéressant de montrer cet Iran presque d'avant, sans regard nostalgique particulier, hein, juste voilà, de dire l'Iran, ce n'est pas que ce qu'on en perçoit maintenant. Et en même temps, la voix d'Omid, ce qui est intéressant, c'est que c'est doublé par une femme. C'est une femme qui prête sa voix. Donc, et une femme, le film est en
farsi.
Farsi. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu des synonymes? Je ne sais plus. Mais en farsi, et je trouve que, sachant que c'est Sépi Dévi en France, que l'animation est très internationale, mais quand même majoritairement française, d'avoir tenu à garder la langue iranienne pour le film, une femme qui double, je trouve qu'il y a vraiment plein de couches successives plutôt intéressantes, même le personnage de cette chanteuse, il y a une chanteuse dans le film qui n'a plus le droit de chanter. Le film fait en permanence écho à l'actualité aussi de l'Iran. Enfin, je trouve que le film, même s'il a mis 8 ans à se faire, il a
une actualité brûlante.
Voilà. Et en fait, il fonctionne très bien, c'est-à-dire de sortir maintenant. J'ai l'impression que le film n'a pas anticipé, parce que les mouvements politiques, les mouvements contestataires en ce moment en Iran, ça reste pas nouveau, c'est-à-dire que c'est une progression, ça s'est fait dans le temps. Mais je trouve que ce film-là presque tombe au bon moment et résonne très très bien avec l'actualité, en plus d'être visuellement très beau.
En Iran comme en Ukraine.
Oui, en Iran comme en Ukraine. Voilà. Mais comme là, on est sur l'Iran.
Parce que ça raconte un siège de ville. Ah bah oui. Donc,
On peut totalement faire des échos. Voilà. Voilà, le film, pour moi, a une résonance particulière. Tombe à pic d'une certaine manière, même si ce n'était pas du tout prévu comme ça.
Thomas.
Je suis un petit peu partagé. Moi, je ne me l'explique pas très bien. C'est un film que j'avais découvert donc, avant Annecy, en projection de presse. On s'y était d'ailleurs croisés, Francis. C'est un film qui ne m'a pas laissé une empreinte durable, mais c'est peut-être ma responsabilité. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait la moitié du chemin vers le film. Le film, sans doute, a fait sa part du travail. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec Marie-Pauline. C'est des questions qu'on a souvent abordé, par exemple, à propos de certains films en comité de sélection court-métrage cette année à Cannes.
Oui, alors je précise aussi pour nos auditeurs, voilà. Moi je fais
complète,
que ça.
Complète notre
voilà,
CV.
Donc Marie-Pauline Thomas, vous êtes... Alors Marie-Pauline, on est la coordinatrice, toi un des membres.
C'est ma supérieure hiérarchique.
Voilà,
donc c'est celle à qui je...
C'est toi N plus 1.
C'est celle à qui je rends des comptes.
Voilà.
Et à qui je dois un respect...
Voilà.
Mutuel, je l'espère. Mais
mutuel pour toi, je l'espère.
Je n'en ai pas la garantie.
T'es viré. Et donc, voilà, vous sélectionnez les courts-métrages pour la semaine de la critique à Cannes. Je te rends la parole.
Et donc, au moment d'évoquer un certain nombre des films qu'on découvrait, qu'on shortlistait quelquefois aussi, il y avait cette question-là qui revenait. Qu'est-ce que c'est la représentation du quotidien en temps de guerre? Et effectivement, moi, je reconnais que le film est assez fort de ce point de vue-là, c'est-à-dire que à côté, en dépit ou au beau milieu de la catastrophe, on continue à vivre. Voilà, ce qui est une idée qui peut paraître presque scandaleuse, hein, pour peut-être à plus forte raison pour un spectateur qui ne vit pas dans un pays en état de guerre, qu'on lui explique que on peut continuer à aimer, à voir ses proches, à avoir des loisirs, des activités, à circuler dans les rues de sa ville, qu'on a toujours besoin d'aller se nourrir, se vêtir, etc., etc. Bon, c'est presque une idée scandaleuse à représenter, quoi, qui est difficile à accepter. Je reconnais que le film est assez fort là-dessus. C'est ce que j'aime le plus, c'est la dimension de chronique. C'est effectivement cette succession de portraits que fait le film. Je voudrais pas faire un amalgame douteux sur la question Iran-Irak, mais moi ça m'a fait penser un petit peu a posteriori à un film que j'aime énormément et qui s'attache à un tout autre contexte, en l'occurrence à celui de l'Irak au moment du début de la Seconde Guerre d'Irak. Mais je pensais un petit peu à Homeland d'Abbas Fadel, qui d'une certaine façon envisageait aussi ou ambitionner aussi de rendre compte d'un là en l'occurrence dans le film dans la sirène d'une ville dans Homeland de tout un pays, dont on ne peut pas ignorer au moment où commence le film qu'il est au bord de la destruction, que tout ce qu'on a sous les yeux, que les décors, les architectures, la population qu'on a sous les yeux, elle est au bord de l'ensevelissement. C'est de ça qu'on va être témoin, c'est de ça que le film va témoigner. Et je trouvais qu'il y avait dans le film d'Abbas Fadel quelque chose d'assez bouleversant dans cette ambition justement de collecter le maximum de visages, le maximum de paysages, le maximum de quelque chose dont on ne pouvait pas ignorer encore une fois qu'il allait disparaître. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Moi, c'est sur ce plan-là que ça m'intéresse. La dimension plus écrite du film, la veine du conte, je suis d'accord effectivement avec Perrine, je pense que ça met un petit peu de temps à démarrer. Il y a des petites épaisseurs dans l'écriture et en même temps il y a quelque chose d'un peu erratique effectivement dans la trajectoire du personnage. Cette dimension de conte, je la trouve un petit peu épaisse, un petit peu surécrite. C'est plus quand le film va du côté de la chronique que ça m'intéresse effectivement. Et puis en termes d'animation, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup et d'autres moins. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont le film tout à la fois rend compte d'une cartographie de la ville, hein, et cette cartographie tout en la poétisant, parce que, encore une fois, on en revient à ce que je disais à l'instant, on ne peut pas ignorer que ce décor qu'on a sous les yeux, il est en voie de destruction, il est en voie d'ensevelissement. Et donc cette double dimension de cartographie et de poétisation de l'architecture de la ville, moi je la trouve assez passionnante. Mais en raison notamment du côté un petit peu lisse, hein, et des gammes chromatiques effectivement très réduites, hein, que tu évoquais, je crois. Est-ce que c'est non, toi qui les évoquais? Non, c'est toi toujours. Je me réfère toujours au discours de Perrine. Je vais même poursuivre pour l'évocation des autres films. ça me convainc un petit peu moins dans la représentation des personnages. Hein. Ça me convainc un petit peu moins dans l'expressivité des figures. Voilà. Je trouve que le film est plus fort, hein, sur ses décors et sur son architecture et sur ce qu'il dit de la ville et de l'urbain que sur la représentation et l'expressivité des personnages eux-mêmes. Donc voilà, c'est un petit peu contrasté. C'était peut-être un petit peu emmêlé ce que je vous ai dit, mais voilà.
Alors, un dernier mot, Perrine.
Oui, si je peux juste ajouter, tu parlais d'une comparaison avec un autre film. Moi, j'ai un peu pensé au film Flea, qui avait eu le cristal il n'y a pas très longtemps, Annecy, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est juste le rapport aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux films, il y a des évocations de pop culture. Dans Flea, on voyait Jean-Claude Van Damme, par exemple, et que c'est là aussi où le personnage découvrait un petit peu son homosexualité en étant fasciné par Jean-Claude Van Damme, et on le comprend. Et là, dans celui-là, dans La Sirène, on croise Goldorak. Et en fait, ce que je trouve intéressant et amusant, c'est que d'un seul coup, ces films-là, c'est comme des pauses dans ces récits de guerre, dans ces récits de fuite, dans ces récits de survie. Il y a une pause où d'un seul coup, la culture devient ce moment où tout le monde se focalise sur la même image, regarde la même chose et a les mêmes références. Et il y a quelque chose, je trouve, c'est assez intéressant, c'est 2 récits à chaque fois de survie.
Y compris les soldats d'armée irakienne qui font le siège de la ville, mais à un moment donné,
ils s'arrêtent pour regarder Goldorak.
Parce que c'est l'heure de Goldorak.
Tout le monde regarde Goldorak, et puis moi j'ai pensé à mes parents ou même à mes grands-parents qui eux aussi s'arrêtaient pour regarder Goldorak. Finalement, il y a eu un truc avec Goldorak. Mais je trouve que. Ouais, y a un truc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve quelque chose d'assez humaniste et presque. Je sais pas comment dire, beau dans un sens presque mondial où tout le monde a des références en commun. Il y a quelque chose, un message presque humaniste là-dedans.
C'est intéressant. C'est quelque chose qui est au cœur d'un court métrage, très beau court métrage de Zaven Najjar, qui est le directeur artistique du film, qui s'appelle Un obus partout, qui se passe pendant la guerre civile au Liban, où un jeune homme veut retrouver sa dulcinée qui habite à l'autre bout de la ville et qui décide de traverser Beyrouth. En dépit des snipers qui guettent au moment d'un match de la Coupe du Monde.
Voilà. Non, mais je trouve ça...
Et il profite de cette accalmie pour risquer sa vie et retrouver la belle. Et donc, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, dans cette idée que les hommes sont frères, mais qu'ils trouvent toujours le moyen de se taper dessus.
Oui, mais je trouve qu'il y a quelque chose comme ça, en tout cas, dans ce film d'animation qui viennent en particulier sur 2 récits du Moyen-Orient. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose où. Finalement, c'est une main tendue à tout le monde et je trouve que c'est très et très inclusif aussi. Enfin, j'ai adoré la séquence Goldorak. Voilà, j'étais à fond sur Goldorak.
Bon, alors voilà, vous aurez compris, chers auditrices, chers auditeurs, que le film fait beaucoup parler, en tout cas, est assez dense dans ce qu'il propose. Donc, vous pourrez dès la semaine prochaine, vous en rendre compte par vous-même, puisque le film sera en salle le 28 juin. Et alors, sans transition, en passant du long métrage au court métrage, on va parler d'un autre film, et ça tombe bien finalement, Marie-Pauline, Thomas, vous m'avez offert un peu la transition en parlant de la semaine de la critique, mais ça je vais le dire après, puisqu'on va parler maintenant d'un court métrage qui est La Saison pourpre de Clémence Bouchereau, dont le synopsis est le suivant.
Encore un film canois récompensé à Annecy.
Voilà, alors on va y revenir après, hein. On va se dire que franchement on se demande ce que font les jurys, enfin bon. Alors, aux abords d'une mangrove, un groupe de filles vit au rythme du climat et des oies sauvages alentours. Elles s'observent vivre et grandir à des âges différents. Le temps passe, des tensions naissent et des rivalités s'installent. Alors, quelques mots sur la cinéaste qui a été formée donc à l'école de la Poudrière. Elle en est sortie en 2013. Et Clémence Bouchereau, j'ai envie de dire, s'est toujours attachée aux techniques d'animation que j'appellerais volatiles, on va dire du sable, hein, qu'elle utilise dans ses films d'études et aussi dans Chloé Van Herzel, qui est un film d'hommage à la pellicule qu'elle a co-signé avec Anne-Sophie Giraud. Et puis au mythique, on en dira peut-être quelques mots, je vous laisse choisir, Écran d'épingle, hein, créé dans les années 1930 par Alexander Alexeïev et Claire Parker. Donc pour ce premier court-métrage professionnel en solitaire. Alors, puisque tu le signalais, effectivement, Thomas, on peut dire que effectivement c'est un film qui a un parcours déjà exemplaire, hein, qui talonne 27 de Flora Anna Bouda sur ce parcours, puisque lui aussi, il a été sélectionné à Cannes, mais cette fois-ci à la Semaine de la Critique, et qu'il a été distingué à Annecy en recevant un prix spécial, le prix André Martin du court-métrage. Alors, un petit mot, André Martin était... critique de cinéma et un des fondateurs du Festival d'Annecy. Et le jury du prix André Martin a salué le film avec ces mots, que je vous livre maintenant. Affirmant un univers féminin à la fois tendre et sauvage, le film allie simplicité et évidence d'un conte aux accents mythologiques, où la nature, les animaux et les personnages sont animés avec une souplesse, une élégance et une grâce rarement atteinte sur écran d'épingle. Alors, qu'en pensez-vous ? J'ai envie de... Puisque Thomas, tu étais dans ce jury, le jury du prix André Martin. Alors pour nos éditeurs, je vais tout de suite dire que Marie-Pauline et Stéphane ont aussi connu dans le passé ce jury.
Et que tu as l'honneur de l'avoir créé.
Ah oui, c'est vrai.
Comme ça, l'air de rien.
Donc,
et depuis, nous faisons tous partie d'une société secrète. Nous nous retrouvons voilà, une fois l'an pour des libations.
Et tout à fait, mais ça, on n'en parle pas.
Autour de la
c'est pour ça que je suis pas invité à chaque fois. Parce que j'ai pas encore
ça va venir, ça va venir.
J'ai hâte pour les libations.
Alors, justement, qu'est-ce qui... puisqu'on voudrait connaître les arcanes du fonctionnement d'un jury.
Ça va devenir gênant, parce que je me demande si j'ai pas déjà trop parlé de ce film, que ce soit au sein du comité de sélection court-métrage de la Semaine de la Critique ou en délibération du prix André Martin. Quelle était ta question?
Eh ben, la question, c'est donc qu'est-ce qui a porté le jury?
Je vais me concentrer sur mes phrases que je n'écoute pas les tiennes.
Et bien sûr, qu'est-ce qui a porté le jury du prix André Martin vers ce film, en dehors de son parcours aussi exemplaire?
Ce qui a porté le jury, d'une façon générale, moi, encore une fois, il y a un petit mot qui a été rédigé, que nous avons tous validé. Et voilà, avec lequel je suis en accord. Après, je vais pas m'exprimer pour chacune et chacun des membres du jury, ni pour chacune et chacun des membres du comité de sélection court-métrage de la Semaine de la Critique. Moi, je sais ce qui me passionne dans le film, en quelques mots. Il y a une chose qu'on a pas mal évoquée aussi, je pense que ça a été le cas à la Semaine de la Critique, hein, c'est que, on pourra peut-être éventuellement, mais enfin, on n'a que trop parlé du film, on pourra peut-être éventuellement dire un mot de 27, mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le film, et dans les propositions d'animation qu'on a reçues cette année. On a vu quelque chose comme 2000-2100 courts-métrages en tout pour la Semaine de la Critique cette année, donc 500 ou 600 chacun. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la timidité dans la représentation des corps, dans la représentation dans le rapport à la sensualité, vraiment au dévoilement des corps, et toutes les propositions qui rompaient un petit peu avec ça, qui étaient un petit peu plus bravaches ou un petit peu plus frontales, elles venaient presque toutes, je pense, du cinéma d'animation. C'était le cas de 27, alors évidemment dans un registre tout à fait différent, ça raconte absolument pas la même chose, et c'est le cas de La Saison pourpre aussi. Je trouve qu'il y a une façon à la fois très innocente, parce qu'on est dans le registre du conte, mais aussi très cruel, parce que c'est quand une jeune fille se retrouve rappelée à l'ordre biologiquement presque, à son genre, qu'elle se trouve exclue de sa communauté plus ou moins édénique. Donc il y a quelque chose de très cruel là-dedans. Je trouve que dans le rapport à la fois très doux, très pur et très frontal qu'a le film au corps, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Après, il y a la question de l'écran d'épingle. Je ne vais pas citer d'autres films, peut-être en avons-nous déjà parlé, Francis. Il y a d'autres films qui ont été réalisés, évidemment, ces dernières années sur l'écran d'épingle, et quelquefois, ça pouvait donner lieu à des sortes de démonstrations techniques ou de performances. Là, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. C'est-à-dire que c'est au service d'une forme et c'est au service d'un récit. Et ça m'intéresse énormément. Avais-je autre chose à dire ? J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà beaucoup, beaucoup parlé sur ce film. Ça fait des mois que je parle de ce film et que je pense à ce film.
Bon, bah alors on va laisser parler aussi les autres autour de la table, aussi bien Marie-Pauline qui également connaît le film depuis longtemps que Stéphane ou Perrine qui peut-être ont une vision plus récente du film.
Perrine. Oui, je me lance juste parce que, en fait, désolée Thomas, je vais faire un aveu de Thomas et Marie-Pauline, c'est que je n'avais pas vu le film à Cannes. Je n'avais pas vu, honte à moi de ne pas avoir vu les courts-métrages de la semaine, mais j'avais entendu parler tout le temps à Cannes, c'est le film à épingle. Et vraiment, c'était vraiment le film à épingle. Et j'ai dit, de quoi ils parlent, les gens, le film à épingle? Et je pensais, honnêtement, que c'était un film avec des épingles qui bougeaient. Enfin, je sais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc, j'étais genre, le film à épingle, mais de quoi parlent-ils tous? Ça a l'air mystérieux. Et donc là, enfin, j'ai pu le voir. Et j'ai compris, l'écran d'épingle maintenant, c'est un petit peu long. Et en fait, je ne savais pas au moment où j'ai vu la saison pour, je l'ai su dans un deuxième temps que c'était le film à épingle. Et j'ai trouvé ça vraiment superbe, en fait. Il y a quelque chose... Au début, je croyais que c'était... Vraiment, ça y avait des sortes d'eau forte, un petit peu, comme ce système de gravure. Le mouvement... Moi, ce qui m'a fascinée, c'est le mouvement des cheveux de ces personnages féminins. Tout le temps, c'est tellement beau. Il y a quelque chose qui est tout le temps dans la mouvance, qui est tout le temps très subtil, qui est presque... c'est très délicat. C'est très délicat, mais pas délicat dans le sens oh là là, les femmes c'est délicat. Non, il y a quelque chose de comme une respiration, c'est quelque chose d'hyper éphémère. Il y a une sorte de sensation d'éphémère dans ce film qu'on a besoin de saisir. Finalement, les choses les moins éphémères, c'est peut-être ce décor de mangrove, c'est peut-être les animaux, mais les personnages humains, ces jeunes femmes. Petite fille quand même, puis jeune femme, ont quelque chose. On pense évidemment à Sa Majesté des Mouches, on pense à plein de choses, mais je trouve qu'il y a une performance, mais c'est pas une performance ultra démonstrative, c'est juste qu'il y a quelque chose de la performance visuelle. Le film est addictif quand on le regarde. Il y a quelque chose, on n'arrive pas à décrocher les yeux de ce que j'étais en train de voir. C'est vraiment... Enfin, je n'imagine même pas le temps que ça a pris à cette personne pour faire l'écran d'épingle, mais le résultat est là, et je crois qu'elle ne recommencera pas, parce que je crois que c'était très long, et que c'est un peu solitaire comme travail, mais c'est le... Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire, merci à elle d'avoir fait cet effort-là, d'avoir fait ce film-là, parce que c'est assez prodigieux ce que j'ai vu, et en effet, même cette manière un peu honnête, franche de traiter... la féminité, de traiter le rapport au corps, au féminin, c'est-à-dire de rappeler au genre, mais voilà, de traiter ce que c'est que les menstruations aussi, de le montrer, en fait. Je crois que c'est l'un des films les plus francs, c'est mieux.
Les plus francs, ouais.
Les plus francs que j'ai vus sur ce sujet-là, et la manière de le montrer. Et je trouve que c'est... en ça, j'ai trouvé ça très beau, très, très violent, mais dans une sens de violence qui me ramène, moi, à mon propre genre aussi. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Non, vraiment, c'est un petit grand film. Je ne sais pas comment on dit, puisque c'est un court-métrage. Il est en taille, il est petit, mais c'est un grand film.
Marie-Pauline, Stéphane.
Peut-être qu'il faudrait rappeler à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers des techniques d'animation ce que c'est qu'un écran d'épingle.
Tout à fait.
Donc c'est pour faire court wikipédien en diable, c'est un écran percé de petits tubes dans lequel on a inséré des espèces d'épingles, enfin des aiguilles, oui merci, noircies qui coulissent. et qu'on fait coulisser à la manière de ce jouet qu'on avait, qu'on a peut-être enfant, donc on mettait sa main, son visage, pour faire apparaître de l'autre côté une forme. Et donc là, c'est un écran qu'on manipule avec des objets, des bouchons, la plupart du temps de verre, pour faire apparaître ces formes. Donc la technique est assez prodigieuse. Et effectivement, tu parlais de gravures, des stamps.
Les eaux fortes,
En fait, Alexeïev, qui l'a inventé avec sa compagne Claire Parker, qu'on oublie souvent, était graveur à l'origine et cherchait à retrouver cette texture de la gravure en animation. Et donc, cette technique que Michael Dudogdevic, le réalisateur de La Tortue Rouge, appelle le Stradivarius de l'animation, parce que c'est une technique très exigeante et en même temps très virtuose, parce qu'elle permet de créer ces mouvements fluides, on dirait du sable, mais en même temps ça n'en est pas, etc. Permet effectivement de créer des merveilles techniques comme ce film. Après, moi, je suis plus je trouve que le film est intéressant, et je trouve que c'est ce qu'il y a d'intéressant dans l'écran d'épingle, c'est que souvent c'est des films muets, et parce que le terme Stradivarius est bien trouvé, je trouve, parce que c'est l'instrument parle de lui-même, c'est, il y a une musique de l'image, quoi, presque. Qui fait que il n'y a pas besoin de dialogue. Moi, je trouve que le film, je souscris totalement à tout ce qu'ont dit les éminents membres du jury du prix André Martin. Je trouve que, en revanche, le film n'est pas du tout simple ni évident. Je trouve qu'il est très sophistiqué, un peu trop à mon goût, et pas du tout évident, parce que moi je l'ai revu 3 fois pour comprendre, je dois être un peu bête, je le concède volontiers, parfois j'ai du mal à piger où on veut en venir, et je trouve que le film est un peu alambiqué, un peu... Je vois où il veut en venir, mais je trouve qu'il manque de cette simplicité qu'on pouvait retrouver dans d'autres films écran d'épingle, même si... Chaque film n'est pas comparable, mais je ne peux pas m'empêcher de le comparer à notamment ce film, ce très beau film de Justine Wulstecker qui était en écran d'épingle, qui s'appelait Étreinte, et qui, par la grâce de cette animation et d'une musique aérienne, permettait de raconter une histoire d'amour impossible ou contrariée, tourmentée, de façon, pour le coup, totalement simple et évidente. Et là, je trouve que... en dépit de son caractère, de sa qualité, de ses qualités techniques virtuoses, je trouve que le film va pas droit au but. Voilà.
Marie-Pauline.
Mais oui, mais moi ça me fait plaisir d'entendre toutes ces jolies choses sur le film. Comme tu le rappelles, Francis, quand on sélectionne un film, en fait, je sais pas, il y a un peu quelque chose où après ça devient un peu le sien. Donc moi j'ai du mal en fait à en parler. Je suis un peu comme Thomas, j'ai l'impression d'en avoir tellement parlé déjà. Mais voilà, évidemment, je vais pas vous dire tout à coup en scoop que je déteste le film et que je comprends pas ce qu'il fait dans cette sélection. Mais c'est moi ce que j'avais envie de dire peut-être, c'est que voilà, vous avez beaucoup parlé d'écran d'épingle, ce que je conçois tout à fait parce que l'écran d'épingle en lui-même est fascinant. Mais en fait, ce qui est très amusant, c'est que les retours qu'il y a eu sur le film quand il a été présenté à Cannes, c'est qu'absolument personne ne savait que ce film était fait en écran d'épingle, et que tout le monde s'en fichait complètement. Et que Clémence, quand elle a rencontré notamment des étudiants, elle me racontait qu'elle elle n'en a parlé qu'à la fin, et en fait, quelqu'un lui a juste dit « Ah bon, je pensais que c'était fait au fusain ». Et en fait, ça n'a pas du tout été son axe de présentation ni rien. Tout ça pour quand même rassurer nos auditeurs sur le fait que le film existe complètement au-delà de la manière dont il a été fait, au-delà de sa technique, et qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste du travail d'Alexeïev Parker pour l'apprécier et pour être capable d'en juger. J'ai envie de dire que c'est plus sur le côté sensoriel et émotionnel, moi, qui m'a cueilli. Même si évidemment j'avais entendu parler du film, je savais comment il était fait et que je l'attendais. Mais j'avoue que j'ai été, moi, vraiment cueillie par son minimalisme et par son épure. C'est ce que j'ai aimé. Je trouve que l'animation veut toujours être hyper dans la performance. Il faut que ça bouge en tous les sens, que ce soit hyper efficace, hyper je sais pas quoi. Et ce côté très doux, très calme, très, encore une fois, minimaliste, parce qu'il y a très peu de décors, il y a très peu de choses. Il y a des jeux d'apparition, de disparition dans l'eau. Tu as parlé, Perrine, des cheveux. Si tu savais combien de temps nous avons parlé en comité à parler des cheveux qui bougent dans le vent.
Ah, mais attends, voilà. Moi, c'est juste fascinant.
Moi, j'avais une fascination pour les masses nuageuses. Moi, c'était les.
Ah non, mais aussi. Oh là là,
mais avec l'écran d'épingle, on fait souvent des masses nuageuses. Il y en avait aussi beaucoup dans
les. Oui, mais alors, c'est marrant, c'est le genre de truc que mettent en avant les grosses productions américaines. On a bossé comme des dingues sur les poils et sur les cheveux. Moi, je trouve pas ça passionnant, personnellement.
C'est pas une question de précision, là, pour le coup. C'est une question d'expressivité.
C'est la même chose dans les productions américaines. Ils cherchent aussi une forme d'expressivité. Hein. C'est pas qu'un exploit technique. Donc, moi, je suis pas un spécialiste de l'écran d'épingle du tout. C'est juste que c'est un film qui était projeté à Annecy, qui est quand même un festival du film d'animation. Donc, je pense qu'il était intéressant de rappeler, mais je suis d'accord avec toi. Le film peut être vu indépendamment, sans savoir comment il a été fait.
Ouais, je savais pas quand je l'ai vu,
ni fabriqué. Et c'est pas très grave de ne pas savoir ce que c'est que l'écran d'épingle, mais comme on en parle, autant le préciser. Moi, je trouve que cet aspect technique, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met le plus en avant, la technique ou le fond? Et moi, je trouve que le fond il est un peu trouble. Enfin, le scénario, il est un peu trouble, comme ce marécage où pataugent les enfants. Voilà.
Bah, merci de cette précision, Stéphane. Je ne pensais pas que tu allais te sentir attaqué.
Je ne me sens pas du tout attaqué.
J'avais juste envie de faire part en fait de ce que elle, Clémence, avait ressenti et ce qu'elle m'avait raconté.
Oui.
Parce que effectivement, c'était un peu le nouveau film en écran d'épingle et qu'en fait, en dehors du petit milieu de l'animation, c'était juste tiens ce film.
Oui, c'est un événement uniquement pour les spécialistes et dans le milieu de l'animation. Toutes celles et tous ceux qui vont le découvrir à l'avenir seront émerveillés ou peut-être un petit peu plus.
Oui.
Mais. Par ce que raconte le film et par ce que la technique met au service de son récit, enfin, je pense.
C'est juste que ça a rajouté un truc en plus quand on sait après. C'est un peu genre, c'est ah ouais, en plus, d'accord, ok. Mais je trouve que le film dans lui-même est déjà...
Mais le film est peut-être un peu trouble aussi, tu le disais, parce qu'il travaille une sorte de décalage constant entre sa grande douceur, sa grande beauté plastique et la violence de ce qu'il raconte, la cruauté de ce qu'il raconte. Je trouve que c'est là que le film n'est pas forcément toujours aisé de s'emparer du film. C'est ce qui me fait aimer encore plus, moi, le film. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Je pense que c'est ce que travaille le film.
Bon, oui, Marie-Pauline, tu voulais ajouter quelque chose.
Non, mais vas-y.
Non,
moi, je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, en fait, sur le sujet du film, que c'était effectivement, moi, ce qui me touchait. Parce qu'on voit énormément de courts-métrages qui parlent de la puberté, l'arrivée des premières règles. C'est toujours un peu un événement... Généralement, c'est exactement l'inverse. Un événement qui est attendu avec impatience et qui permet de rentrer tout à coup dans une communauté. L'âge adulte, on est des femmes, etc. Et ça, c'est complètement traité autrement. Ce qui est amusant, là je fais un petit clin d'œil à Perrine, c'est qu'à la semaine de la critique, il y avait un long métrage qui racontait exactement la même chose avec une histoire de puberté qui met au banc de la société. Donc c'était un peu la grosse coïncidence sur ce film Tiger Stripes.
Ouais.
Je dis ça parce que Perrine, on ne l'a pas précisé, sélectionne les longs métrages à la semaine de la critique.
Non mais il n'y a que de longs projets dans cette émission.
Et voilà.
Heureusement que tu es là.
Ouais, moi je suis...
Comme toujours, la croix à l'intégrité.
Mais voilà, et ça je trouvais ça hyper intéressant parce que pour avoir lu tellement de livres où tout l'enjeu c'est quand est-ce que mes règles vont arriver et que je vais être une femme. Vu tant de films, etc. Et tout à coup d'avoir ce film où en fait il y a cette forme de cruauté qui est très bien captée, cette cruauté de l'enfance aussi. Voilà, parce qu'on dit l'enfance, le paradis, etc. Mais en fait c'est quand même un milieu très cruel et assez violent. Toutes ces petites filles qui en plus ont toutes le même visage et donc ça a vraiment cette idée qu'elles vont toutes passer par là. Enfin je sais pas, il y a un truc vraiment là très clair, très simpliste de elles vont toutes passer par là. Elles sont en train de rejeter celle qui vient de passer le cap, mais la prochaine, c'est elle, en fait. Et voilà, j'ai trouvé, moi, ça m'a vraiment beaucoup saisi, et ça m'a vraiment presque bouleversé de me dire, tiens, on peut montrer ce genre de choses au cinéma et le montrer comme ça.
Alors, on vous remercie tous les quatre sur le film de Clémence Bouchereau, donc, qui s'intitule La Saison Pourpre. Alors, comme c'est un court-métrage, pour l'instant, il est pas visible, il est au Champs-Élysées Film Festival, mais je sais pas quand il passe. Donc, en tout cas, il était important d'en parler, parce que, chères auditrices, chers auditeurs, c'est un film à surveiller. Il était avant sur le site d'Arte, mais il n'y est plus. C'est pour ça, justement. Et on va continuer avec un autre court-métrage, mais on va l'introduire délicatement par la musique qui l'illustre.
Thank you.
Radio Libertaire, et oui, il continue à parler même quand le micro est coupé. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, toujours en compagnie de Stéphane Dreyfus, Thomas Fouet, Marie-Pauline Monaret et Perrine Quenesson. Et on continue donc en allant à la découverte d'un autre court-métrage d'importance également. Ce qu'on vient d'écouter, donc, c'est un morceau de Bachar Markhalifeh qui s'appelle Wolfpack, qui est un morceau original de Bachar Markhalifeh qu'il a réadapté pour le film dont on va parler, qui est La Grande Arche de Camille Autoir. Son synopsis. L'histoire se déroule à la Défense à Paris. Dans l'ombre de ce quartier austère, symbole de puissance et de modernité, se cachent deux poètes. Un homme sans maison et une gigantesque araignée de métal rouge. Durant toute la journée, ils sont comme invisibles, si petits parmi les gratte-ciel. Mais c'est la nuit, quand tout semble désert et que les étoiles se confondent avec les fenêtres des plus hautes tours, qu'on les observe le mieux. Alors, quelques mots sur Camille Autoir avant de vous laisser la parole. Elle est sortie en 2013, elle aussi, comme Clémence Boucheron, on peut dire que c'est la même génération de cinéastes. Elle est sortie donc des Arts Déco, et elle a commencé aussi par une co-réalisation avec Marie Larrivée dans le cadre de la collection Poétique et Jeune Public en sortant de l'école, dont la saison inaugurale était consacrée à Jacques Prévert, avant d'entreprendre donc ce premier court-métrage qui s'ouvre, j'ai envie de dire, tel un récit familial, avant de dériver vers une déambulation poétique. Alors, au sujet de ce quartier dont elle considère que Jacques Tati avait traduit avec justesse la poésie kafkaïenne dans Playtime, Camille Autoir déclare « L'architecture des gratte-ciels avec leurs reflets infinis constitue pour moi un terrain d'exploration graphique passionnant. Je me suis beaucoup amusé à peindre ces paysages urbains et bétonnés de la même manière que l'on peindrait des paysages de bord de mer. Ces nouvelles cathédrales de verre et d'acier m'intéressent car elles sont des marqueurs sociologiques importants de notre époque. Incarnation d'une maîtrise totale de l'homme sur la technique, ces tours portent en elles à la fois quelque chose de tragique et de merveilleux. » Alors, est-ce que vous auriez été les uns et les autres sensibles à ce mélange de tragique et de merveilleux, ou au contraire, pas du tout? Je vous écoute. Perrine.
Je t'en prie, Perrine, je t'en prie.
Non, bah, moi j'ai été très sensible en tout cas à cette histoire-là. C'est vrai que donc, la Grande Arche, c'est dans le quartier de la Défense, quoi. Et c'est pas le quartier en premier auquel je pense à Paris pour me dire tiens, et si j'allais faire une balade? Et je m'aperçois en fait avec le film, avec ce court-métrage, que j'ai peut-être tort. En tout cas, elle arrive à magnifier, à donner une poésie à quelque chose qui est très bétonné, qui est très vu comme un lieu d'affaires uniquement, et pas franchement comme un musée à ciel ouvert, ce qu'il est aussi pourtant. Il y a quelque chose de... Ouais, j'ai trouvé ça en tout cas très 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 beau, très poétique. Il y a une voix off tout le long du court-métrage qui raconte aussi son intention, ce qu'elle dessine et ce qu'elle veut montrer, notamment ce personnage qu'elle retrouve de jour en jour. Moi, c'était un peu la voix off était un peu presque ma limite. J'en avais presque pas besoin. Je trouvais que les images parlaient très très bien pour elles-mêmes. Elles sont vraiment c'est très beau, très poétique, très aussi touchant d'aller chercher l'individu dans la masse, aller chercher le particularisme dans le grand, dans l'immense et dans la hauteur que représentent aussi ces buildings. On dit building,
ouais.
Ouais. Oui, parce que c'est que américain les buildings, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je trouve ça très beau. Et il y a à un moment donné une séquence assez onirique dans le film, avec une des statues, qui est donc une araignée rouge, je crois, qu'elle anime, et ça, j'étais complètement fascinée par ça, c'est-à-dire de rendre ça vivant, de faire une sorte de balade à cheval sur l'araignée métallique, et de surtout de créer le mouvement de cette araignée, d'imaginer comment elle se déplace. J'ai trouvé ça particulièrement beau, particulièrement émouvant en fait, et ça m'a donné qu'une envie, c'était de prendre le RER et d'aller à la Défense. Donc comme quoi tout arrive finalement.
Je suis assez d'accord sur la voix off, mais j'ai aussi la même réserve qui, je trouve, vient plaquer du discours sur des images qui parlaient d'elles-mêmes. Bon, voilà. Mais bon, c'est un souci commun à énormément de films, que ce soit dans l'animation ou ailleurs. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la façon dont le film, très vite, s'est déjoué lui-même, ou a déjoué mes craintes. Hein. Moi, l'ouverture que je trouve assez jolie, dans laquelle la réalisatrice évoque sa grand-mère, qui a vécu très longtemps dans ce quartier, et quartier qu'elle a vu se transformer sous ses yeux jusqu'à obturer complètement son champ de vision dans le petit immeuble qu'elle occupait. J'ai eu très peur du film qui allait suivre, c'est-à-dire le petit récit familial, la petite Madeleine de Proust, ma mamie ceci, ma mamie cela. Bon, j'ai eu très très peur de ça parce que c'est un truc qui a tendance à me gonfler maintenant. Et j'aime beaucoup la façon dont le film part de ça pour aller sur des considérations beaucoup plus théoriques, architecturales, poétiques, urbaines, des problématiques qui sont à la fois personnelles, on sent qu'elles sont, c'est des problématiques intimes, pour, enfin qu'elle a un rapport intime à cet espace-là, à ce territoire-là, la réalisatrice, mais c'est aussi des problématiques collectives et politiques. Et moi j'aime beaucoup la façon dont le film s'empare de ça. Je trouve que le film est très fort visuellement aussi, dans son travail des couleurs aussi. La scène de nuit finale est assez magnifique aussi, cette scène onirique que tu évoquais. Voilà, je trouve que le film est très fort sur cette question-là, sur cette façon, encore une fois, qu'il a de poétiser une sorte d'essai, une sorte d'essai architectural ou de proposition théorique. Je trouve que le film est assez beau là-dessus.
Marie-Pauline, Stéphane.
Oui, ben, Marie-Pauline. Moi, je vous rejoins complètement, Perrine et Thomas, sur la voix off. Et moi, j'avoue que ça m'empêche complètement de rentrer dans le film. Je trouve que c'est une béquille narrative. Je pense que la réalisatrice n'en avait pas du tout besoin. Par ailleurs, le côté, enfin, tout me semble un peu prétexte dans ce qu'elle raconte. Il y a un moment hyper didactique où elle nous raconte les je sais plus combien d'œuvres d'art qui sont là. Il y a le moment avec la grand-mère. Après, il y a ce passage avec ce sans-abri sur lequel elle se fixe comme ça de manière un peu obsessionnelle, un petit peu creepy dans la manière de le suivre et de le dessiner. Enfin, bref, j'ai vraiment eu l'impression, alors après, ça c'est une interprétation hyper personnelle, qu'il fallait à un moment nourrir une sorte de scénario, avoir une sorte de ligne directrice, parce que juste dire on va faire une déambulation autour de la Grande Arche, c'était pas assez fort. Et moi, je trouve ça dommage parce que j'adore la fin, je la trouve magnifique. La fin avec l'araignée, c'est hyper beau et c'est hyper poétique, comme vous l'avez dit. Mais alors, tout le reste, moi, j'ai vraiment l'impression, effectivement, qu'on me plaque des propos sur des images et que ça me laisse mais complètement extérieur.
Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que cette voix off est un peu dommage et que l'essai architectural, comme tu le disais, est très réussi, et que à la manière de Sophie Racine, qui avait raconté la vie d'une plage, 24 heures de la vie d'une plage, dans Rivage, film magnifique d'il y a quelques années, 2 ans, elle aurait pu s'abstenir voilà, raconter une histoire quand même, sans effectivement plaquer des narrations et raconter et montrer tout simplement cette architecture qui est très intéressante. Elle cite dans ses remerciements Laurence Cossé, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur la construction de l'Arche de la Défense, qui est un dossier architectural et politique très 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 turbulent, parce que le dossier avait été repris par Chirac, qui avait privatisé l'ensemble. L'architecte dont je vais écorcher le nom, qui s'appelle Johan Otto von Spreckelsen, architecte danois, avait imaginé coiffer l'Arche de la Défense de jardins cosmiques, faire des jardins tout autour de l'Arche, et voulait un peu végétaliser, comme on dit aujourd'hui, cet ensemble qui est très très froid, hein, c'est quand même très buffet froid, hein, c'est là que ça a été tourné, et donc c'est des architectures intéressantes, c'est des architectes, le CNIT qui est juste à côté, c'est Jean Prouvé, avec d'autres, mais je veux dire, il y a un aspect d'utopie architecturale à la Défense qui contraste avec sa finalité de bureaux financiers. En plus, il y a Total, enfin bon, il y a tout ce qu'on aime dans le CAC 40. Donc voilà, donc c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, la forme est très très belle et le fond est un peu, voilà, un peu moins intéressant.
Oui, sur cette question juste de ce qu'est la Défense, moi, je pense que le film l'exprime assez bien. Je rebondis un peu sur ce que tu disais. Cet espace, c'est à la fois une relique et un accomplissement. C'est-à-dire, c'est la relique d'une ambition passée, presque fin trente glorieuse, presque, il y a quelque chose presque d'un peu pathétique, quoi. Voilà, d'un peu triste depuis l'endroit où on se trouve, selon son positionnement politique, par ailleurs. Et puis en même temps, ça figure comme ça une sorte de nouveau lieu du pouvoir, une sorte de décentralisation du pouvoir parisien vers des places financières, économiques. Et je trouve que le film est assez beau là-dessus. C'est à la fois un endroit qui existe, hein, qui a sa présence, qui a sa violence aussi, et qui est un symbole dans l'espace public parisien contemporain. Et c'est aussi la trace ou la relique de quelque chose d'un peu pathétique, je trouve. Enfin, ce qui le rend très poétique et passionnant, mais c'est un endroit un peu pathétique aussi, pas seulement.
Alors j'avais peut-être une question à vous poser, parce que finalement on se rend compte que Clémence Bouchereau, Camille Ottoir, c'est une nouvelle génération peut-être aussi de cinéastes, des trentenaires, femmes. Tout à l'heure tu évoquais Sophie Racine, Stéphane, on pourrait aussi parler de manière différente de gens comme Raphaël Stoltz ou Marion Auvin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression comme ça là, qu'il y a aussi une nouvelle génération là, qui arrive et qui peut-être va aussi s'emparer du cinéma d'animation? Est-ce que on peut envisager des passages au long? Je crois savoir que Clémence Bouchereau a un projet de long métrage, en tout cas qu'elle aimerait passer au long métrage. Est-ce que vous avez l'impression comme ça qu'il y a aussi des nouveaux regards pour ceux et celles d'entre vous qui sont attentifs à l'évolution de ce milieu?
Bah oui, moi ça me paraît assez évident qu'il y a toute une génération de jeunes femmes, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je suis plus attentive ou il y en a plus, mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression. Non, je veux dire, je suis plus attentive aux jeunes femmes qu'aux jeunes hommes, il y en a sans doute aussi. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression.
Il y avait beaucoup au palmarès, d'ailleurs.
Il y avait beaucoup de jeunes femmes au palmarès. On voit beaucoup de films très intéressants qui essayent des choses différentes. Et
au César aussi.
Au César, il y avait Émilie Pijard avec sa co-réalisatrice dont le nom m'échappe. Enfin. Voilà, il y a très clairement une sorte de génération, il y a quelque chose de très très passionnant à suivre aussi dans des manières différentes, je trouve, d'utiliser l'animation. Il y a cette réalisatrice, bon, je vais écorcher le nom, j'en suis désolée, Francis, tu la connais très bien, qui avait réalisé L'après-midi de Clémence.
Ah oui,
voilà, Léa Lemoigne, et qui fait aussi un cinéma hyper quotidien, très banal en fait, qui montre des choses en animation qu'on a l'habitude complètement de voir en prise de vue continue, mais qu'en animation on voit pas si souvent, parce que les récits sont souvent plus fantastiques ou exceptionnels, ou voilà, qui fait des choses très ténues. Enfin bref, il y aurait plein de gens à citer, et en tout cas, ouais, moi je vois très clairement ça.
Stéphane?
Oui, alors je sais pas, parce que chaque année il y a en court métrage c'est souvent des jeunes réalisateurs, il me semble, qui sont récompensés, mais peut-être je dis une grosse bêtise, je ne sais pas. Mais en tout cas, les dernières lauréates des Césars, les derniers lauréats sont des lauréates. Agnès Patron pour L'heure de l'ours. L'année suivante, c'était ce film sur la folie qui était folie dure
de Marine Laclotte.
Voilà. Donc effectivement, il y a toute une génération qui a peut-être aussi débuté dans l'écurie en sortant de l'école, qui est intéressante à suivre. Oui, clairement. Mais je ne sais pas si c'est tellement nouveau par rapport à. Faudrait demander à pour le coup, un vrai spécialiste de l'animation, Alexino, pour ne pas le nommer.
Mais il y aura sûrement un sujet dans Bulle de rêve. Je disais ça aussi parce qu'on va se poser, c'est un problème qui reste encore en animation, le passage au long métrage peut-être pour certaines d'entre elles, ce qu'on peut leur souhaiter, puisque aujourd'hui, le long métrage, on ne peut pas dire le contraire, prend une place de plus en plus importante, y compris dans le cinéma d'animation, là où avant, il n'était peut-être pas à cet endroit-là. Cette année encore, on a constaté donc que le long métrage était remis en dernier, au niveau du palmarès,